Donc Jean,
chapitre 8, verset 44. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Meurtrier dès le commencement, pensez à Caïn qui tue Abel. Hein. C'est le commencement de l'humanité, de la première famille plongée dans le péché. Et bien sûr, il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, il est menteur et le père du mensonge. Si le père, il a des enfants. N'oublions pas cela. Il n'est pas seul. Il y a bien sûr les anges révoltés, un tiers des anges du ciel ont suivi Satan, mais et peut-être qu'il y a parmi les humains beaucoup d'enfants à lui. Alors, regardons dans le chapitre 14, verset 6 de Jean. Jésus lui dit à Philippe, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. » Alors là, nous avons une opposition. Là, Jésus n'est pas le menteur, ni le mensonge. Et il est la vérité, le chemin et la vie. Pourquoi ? Mais pour que nous venions au Père. Définitivement, évidemment. Pas de façon touristique. Maintenant, avant d'aller plus loin dans le message du Nouveau Testament, je vais retourner un petit peu dans deux, trois événements de l'Ancien Testament. Pensez que dans Deutéronome, au chapitre 17, Moïse a enseigné quelque chose de formidable. Il n'a pas hésité à dire qu'un vrai roi, un roi de qualité, un roi selon le cœur de Dieu, doit répondre à des critères qui sont toujours d'actualité, si on veut. On veut avoir un responsable digne de ce nom. Deutéronome 17, verset 14, « Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, lorsque tu le posséderas, que tu auras établi ta demeure et que tu diras, je veux mettre un roi sur moi, comme toutes les nations qui m'entourent, Dieu savait très bien ce qui allait arriver à l'avance, lui. Tu mettras sur toi un roi que choisira l'Éternel ton Dieu, tu prendras un roi du milieu de tes frères. Tu ne pourras pas te donner un étranger qui ne soit pas ton frère. Mais qu'il n'y ait pas un grand nombre de chevaux, donc c'est la puissance militaire démonstrative et affirmée. Qu'il ne ramène pas le peuple en Égypte pour avoir beaucoup de chevaux. Car l'Éternel vous a dit, vous ne retournerez plus par ce chemin-là. L'Égypte était l'image de la puissance humaine et démoniaque. Par toute sa grandeur, sa puissance. Qu'il n'y ait pas un grand nombre de femmes afin que son cœur ne se détourne point. Attention, vous avez vu la folie du sexe et l'orgueil de la polygamie. Et qu'il ne fasse pas de grands amas d'argent et d'or. Ah, nous voilà avec le matérialisme, l'or, le trésor, la puissance. Quand il s'assiera sur le trône de son royaume, il écrira pour lui dans un livre une copie de ses lois qu'il prendra auprès des prêtres et des lévites. Donc, il va devoir se mettre à la tâche et écrire la loi. C'est-à-dire la Torah, les cinq premiers livres de la Bible. Pourquoi ? Vous savez, quand on travaille la Bible, qu'on lit, des versets, si on n'a jamais écrit les versets, on va retenir 8 à 10% de ce qu'on a lu. Il est très rare que quelqu'un puisse dire « Je connais beaucoup de versets par cœur » sans les avoir écrits. Si vous écrivez les versets de la Bible que vous aimez et que vous pensez que Dieu vous donne comme important, comme guide de vos pensées, de votre vie, si vous les copiez une fois, deux fois, il y a 65% de chances que vous les reteniez par cœur. Si vous les répétez encore plusieurs fois par écrit, il est clair que vous allez avoir arrivé à une très grande probabilité de les connaître, comme on dit, par cœur. Parce que le cœur s'est donné dans la mémorisation de ce verset. Voilà le mot par cœur. Alors, il devra l'avoir avec lui, cette copie. Avec lui, y lire tous les jours de sa vie, afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel, son Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et toutes ses ordonnances. Donc, il doit apprendre à craindre et à obéir. Imaginez. Il n'est pas seulement le roi pour les hommes, mais il a un roi au-dessus, suprême, qu'il doit reconnaître tous les jours comme le véritable roi de sa vie, afin que son cœur ne s'élève point au-dessus de ses frères. Et donc, nous voyons bien que quand quelqu'un est dans l'humilité et la vérité pour Dieu, il n'abuse pas des autres. Il ne domine pas, il n'écrase pas. Et qu'il ne se détourne de ses commandements ni à droite ni à gauche, afin qu'il prolonge ses jours dans son royaume, lui et ses enfants au milieu d'Israël. Nous avons ici un commandement qui veille à la pureté et à la vérité du mandat royal. Et pourtant, si nous regardons, et ça j'en ai parlé déjà, je pense dimanche au culte, c'est quand même un fait marquant, j'en reparlerai dimanche prochain pour l'approfondir. Premier livre des Rois, chapitre 4, verset 26. Vous savez que Salomon a demandé de l'intelligence. Ben, tout le monde en demande. D'ailleurs, on pousse nos enfants à aller à l'école pour ça. Alors, au chapitre 4 des rois, du premier livre des rois, verset 26. Salomon avait 40 000 crèches, donc des écuries, des boxes, si vous voulez, pour les chevaux destinés à ses chars et 12 000 cavaliers. Il a fait le contraire de ce que Dieu demandait dans Deutéronome 17, verset 14 à 20. Ensuite, premier livre des rois, chapitre 10, verset 14. Est-ce que c'est l'intelligence que Dieu souhaite à Salomon? Non, ce n'est pas celle-là. C'est l'obéissance de vraie intelligence. Alors, chapitre 10, verset 14. Le poids de l'or qui arrivait à Salomon chaque année était de 666 talents d'or, outre ce qu'il retirait des négociants et du trafic des marchands de tous les rois d'Arabie et des gouverneurs du pays. Vous imaginez la fortune. Le roi Salomon fit 200 grands boucliers d'or battus, pour chacun desquels il employa 600 sicles d'or, et 300 autres boucliers d'or battus, pour chacun desquels il employa 3 mines d'or. Et le roi les mit dans la maison de la forêt du Liban. Le roi fit un grand trône d'ivoire et le couvrit d'or pur, etc., etc. Plus loin, verset 22, car le roi avait en mer des navires de Tarsis, donc Tarragone en Espagne, et avec ceux de Hiram, donc roi de Phénicie, du Liban, de l'Empire phénicien, et tous les 3 ans arrivaient les navires de Tarsis apportant de l'or, de l'argent, de l'ivoire, des singes et des paons. Le roi Salomon fut plus grand que tous les rois de la terre par la richesse et par la sagesse. Et voilà, il y en a encore des pareils sur terre aujourd'hui. Il faut en mettre plein la vue à tout le monde. Premier livre des rois, chapitre 11, versets 1 à 13. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Éthiennes. Et vous savez très bien qu'à l'époque du roi Balak, Balaam avait incité Balak à envoyer les jeunes filles vers les jeunes hommes d'Israël, et vice-versa, ces jeunes gens, etc. Donc, il avait corrompu les mœurs de la jeunesse d'Israël, il était arrivé à affaiblir et à corrompre l'esprit, la foi d'Israël, si bien que Dieu a sanctionné et qu'ils sont tous péris, ils ont tous péri dans le désert. Cette génération est décédée dans le désert. Vous voyez à quel point ce qui était interdit, ce péché de Balaam, qu'on retrouve dans la deuxième épître de Pierre, chapitre 2, Balaam, fils de Béor, dans les communautés chrétiennes se répète. Dans l'Apocalypse aussi, Balaam, l'esprit de Balaam, dans certaines églises, c'est cela. C'est un esprit puissant, démoniaque, souterrain, sournois, qui pousse à l'inconduite sexuelle, à l'immoralité, et qui est la ruine des églises. Alors, sauf de certains chrétiens très fidèlement attachés à Christ. Alors, si vous lisez tout le chapitre 11, eh bien, vous voyez, verset 4, « À l'époque de la vieillesse de Salomon, ses femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel son Dieu, comme l'avait été le cœur de David son père. Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens, Milcom, l'abomination des Ammonites, etc. etc. » Et verset 7, Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kémosh, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Chers amis, c'est une catastrophe. Une catastrophe. Vous voyez que le mensonge chez quelqu'un d'intelligent et qui a glorifié Dieu, qui avait la foi, le mensonge s'est installé d'une façon superbe. Qu'est-ce que Satan a proposé à Jésus quand il dit « Mets-toi à mes genoux » dans Matthieu chapitre 4, « Je te donnerai toutes les gloires, toutes les richesses de ce monde. » C'était ça. Sauf que Jésus est sans péché, il est fils de Dieu, et lui a dit « Va-t'en. » Alors, nous voyons bien que Salomon a perdu toute la gloire que Dieu lui avait donnée dans Luc 12, versets 27 à 30. Salomon est moins beau qu'un lys des champs. Oui, un lys ne pêche pas, mais Salomon, dans toute sa gloire, n'avait pas la beauté d'un lys des champs. Il avait perdu tout son éclat et sa beauté devant Dieu, et c'était une catastrophe du point de vue spirituel et moral. En plus, il avait un rôle de témoin pour tout le peuple. Donc Dieu va sanctionner Salomon, il va déchirer son royaume. Il ne restera plus que 2 tribus du sud pour son fils et 10 vont se révolter et vont suivre un ouvrier rebelle, un dur, qui avait essayé de frapper d'ailleurs Salomon. Alors, voyons maintenant dans le livre des Juges. Dans le livre des Juges. Juges chapitre 8. Juges chapitre 8. À cette époque-là, dans le chapitre 8, Gédéon a gagné une bataille contre les Amalécites sans manier l'épée. C'est uniquement Dieu qui a brisé les ennemis. Donc Gédéon a reçu une victoire gratuitement. Mais après cette victoire, dans Juges chapitre 8, qu'est-ce qui lui prend à ce Gédéon qui devrait glorifier Dieu et le servir ? Il lui prend une folie épouvantable. Gédéon dit, verset 24, à tous les hommes, à tous les responsables d'Israël qui l'avaient suivi, « J'ai une demande à vous faire, donnez-moi chacun les anneaux que vous avez eus pour butin. » Donc les Amalécites, les Arabes avaient énormément d'anneaux en or et des pendentifs, des lunes. Hein. C'est avant l'islam, hein, le symbole de la lune, chez tous ces peuples-là. Hein. Simplement, l'islam l'a repris. Les ennemis avaient des anneaux d'or car ils étaient ismaélites, donc arabes. Ils dirent, nous les donnerons volontiers. Ils étendirent un manteau sur lequel chacun jeta les anneaux de son butin. Le poids des anneaux d'or que demanda Gédéon fut de 1700 sicles d'or, une fortune. Sans les croissants, les pendants d'oreilles, les vêtements de pourpre que portaient les rois de Madian, donc c'est une partie de l'Arabie, sans les colliers qui étaient au cou de leurs chameaux. Et voilà. Gédéon fit une éphode et il le plaça dans sa ville à Ophra, où il devint l'objet des prostitutions de tout Israël. Il fut un piège pour Gédéon et pour sa maison. Une idole, il construit une idole. Après une telle victoire éclatante où Dieu a montré sa puissance pour sauver Israël, voilà que le juge Gédéon est corrompu par son propre cœur, sa convoitise, son mensonge envers Dieu. Vous voyez dans les deux cas que le mensonge peut prendre une puissance invraisemblable parce que ces deux hommes ont voulu se faire plaisir plutôt que de faire plaisir à Dieu. Je pense que la base du mensonge, c'est de se faire plaisir à soi-même. Et d'oublier Dieu. Pourquoi le péché ? Romains chapitre 3. Pourquoi le péché ? Romains, chapitre 3. C'est un texte que j'ai trouvé absolument dur jusqu'à l'âge de 42-43 ans. Je n'arrivais pas à le supporter. Parce que j'avais un esprit humaniste, bien que chrétien, enfin chrétien à la sauce humaniste, hein, et où l'homme quand même avait quelque chose de bon en lui. Mais tout ça, je l'ai perdu depuis. C'est pas pour ça que je n'aime pas l'homme, hein. Alors, quoi donc sommes-nous plus excellents? Nullement, car nous avons déjà prouvé, tous, juifs et païens, que nous sommes sous l'empire du péché. Il est écrit ceci dans l'Ancien Testament. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Nul n'intelligent, nul ne cherche Dieu. Nul n'intelligent, donc on peut mettre Gédéon et Salomon et tous les autres dans le panier. Tous se sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse bien, pas même un seul. Leur bouche est un sépulcre couvert et se servent de leur langue pour tromper. Nous voilà. Voilà le mensonge. L'être humain se sert de sa bouche pour tromper. Je priais dans la journée et je me dis, mais j'ai menti des milliers de fois. Dans des détails, dans des tas de trucs. C'est quand même malheureux. Oui.
Pas des milliers de fois quand même.
J'exagère peut-être, mais combien de fois, pour ne pas faire peur à ma femme, je cachais des choses. Hein, parce qu'elle a une nature angoissée, etc. Vite inquiète. Donc je cachais des choses. Donc elle me posait des questions, je répondais à côté. Enfin, c'est-à-dire, vous avez compris ce que ça veut dire. Alors, combien de fois aussi, j'ai menti à mon propre cœur. En me laissant à moi-même croire que j'aimais Dieu par-dessus tout, alors que j'aimais d'abord mes plans, mes projets, et Dieu ensuite. Et j'ai demandé à Dieu que ma volonté soit faite. Mais ça, c'est un mensonge. La vraie foi, c'est que ta volonté soit faite, mon Dieu. Mais chaque fois que nous prenons un autre pied, c'est-à-dire, mon Dieu, je te prie que ma volonté soit faite, et vous savez, ça arrive souvent, c'est le mensonge. C'est là que Satan a commencé à dégringoler et tous ses anges avec. Alors, ils ont tous sous leurs lèvres du venin de serpent. Leur bouche est pleine de malédiction, d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Donc, celui qui ment n'a pas la crainte de Dieu. Voilà. Et qu'est-ce qu'on voit dans le psaume 111? Dans le psaume 111, il est clair que la crainte de Dieu donne une raison saine. La crainte de Dieu donne une raison saine. Psaume 111, le dernier verset. La raison saine est évidente. On ne ment pas quand on a une raison saine. Elle fonctionne de manière droite et intègre. Et elle n'aime pas le mensonge. Elle n'aime pas se fourvoyer. Voilà la raison saine. Et Dieu nous invite à une raison saine. Et pour cela, il faut avoir une certaine crainte de Dieu. Maintenant, regardons Ésaïe, chapitre 5. Ésaïe, chapitre 5, c'est un sujet fort long. J'ai beaucoup de versets à lire et je vais aller vite. Je m'excuse. Vous pouvez réécouter le message pendant un mois et noter. Voilà, le contact est rétabli. Dans Ésaïe, chapitre 5, verset 15, « Malheur à ceux qui tirent l'iniquité avec les cordes du vice et le péché comme avec les traits d'un char, et qui disent qu'il hâte, qu'il accélère son œuvre afin que nous la voyions. » Il y a un type de croyant qui dit publiquement, devant les frères et les sœurs, que Dieu hâte son œuvre, que nous la voyons. Donc, extérieurement, il souhaite la réalisation du plan de Dieu. Et puis, en fait, ils tirent l'iniquité avec les cordes du vice. Ils utilisent tout ce qui est dans leur cœur pour forger du faux. Du faux. Et le péché, comme avec les traits d'un char, c'est quelque chose de puissant, le mensonge. C'est quelque chose, quand ça règne dans le cœur, ça devient puissant. La personne n'arrive plus à se passer du mensonge. Alors que le décret du Saint d'Israël arrive et s'exécute afin que nous le connaissions. Donc, on finit par mentir lorsqu'on parle des plans de Dieu, parce qu'on ne les souhaite pas du tout. Extérieurement, oui. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se croient intelligents. Vous avez ici une définition du mensonge. C'est l'inversion des valeurs, l'inversion de l'état du cœur. Et Dieu dit malheur à ceux qui sont sages à leurs propres yeux et qui se croient intelligents. Il prévoit un jugement. D'ailleurs, même durant la vie, il prévoit déjà qu'il va y avoir, bien sûr, les fruits du péché, la peine du péché. Alors, regardons dans le chapitre 2 d'Ésaïe, au verset 22. « Cessez de vous confier en l'homme dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle, car de quelle valeur est-il ?» Alors là, j'ai eu bien de la peine à 40, 42 ans d'accepter de tels versets, parce qu'ils démolissaient tout ce qui me restait d'humanisme, d'anthropocentrisme, c'est-à-dire de mettre l'homme au centre. Vous voyez, ça a été pénible pour moi, et je remercie Dieu parce que parfois ma femme m'a aidé à faire attention à cet égarement que j'avais. Le psaume 4, verset 3. Dans le psaume 4, verset 3, voici. Quand je crie, réponds-moi, Dieu de ma justice. Quand je suis dans la détresse, sauve-moi. Aie pitié de moi, écoute ma prière. Au verset 3, fils des hommes, jusqu'à quand ma gloire sera-t-elle outragée? Jusqu'à quand aimerez-vous la vanité? Chercherez-vous le mensonge? Psaume 4, verset 3. Donc, on dirait que c'est véritablement un fléau. C'est pire que le Covid, le mensonge, tout compte fait. Un fléau moral et spirituel. Nous allons aller dans le psaume 14, versets 2 et 8. L'Éternel, Dieu des cieux, regarde les fils de l'homme, et les femmes hein, aussi, pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse bien, pas même un seul. Vous retrouvez ce verset dans Romains chapitre 3, verset 10 et suivant. Et donc, tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse bien, pas même un seul. Et quelqu'un d'intelligent qui cherche Dieu? Non, il n'y en a pas. C'est une catastrophe spirituelle pour l'humanité, évidemment, que Dieu dénonce là. Est-ce qu'il la souhaite? Non, pas du tout. Mais pas du tout. Alors, regardons le psaume 7, verset 10. Mais un terme à la malice des méchants a fermé le juste, toi qui sondes les cœurs et les reins. Dieu juste. Dieu juste. Mais un terme à la malice des méchants, a fermé le juste. Le juste a bien de la peine d'éviter le péché. Il lutte contre, mais il faut l'affermir. C'est Dieu qui fait grâce pour l'affermir. Et en même temps, met un terme à la malice des méchants, c'est-à-dire, il faut que ça cesse. Et un jour, ça cessera, évidemment, totalement. La conviction spirituelle du prophète David est claire à ce propos. Regardons le psaume 116, verset 11. Psaume 116, verset 11. « Je disais dans mon angoisse, tous hommes et trompeurs. Psaume 116, verset 11. Je disais dans mon angoisse, tout homme est trompeur. Pourquoi est-il dans l'angoisse? Pourquoi? Parce qu'il est au seuil de la mort. Et pourquoi dit-il cela? Ben, il est inclus dedans. Il est inclus dans cette vérité. Il faut donc, bien sûr, saisir le psaume 32 pour voir que Dieu va remettre toutes les transgressions et les iniquités à David et lui pardonner tout péché. Hein? C'est clair, on ne peut pas prendre rien qu'un verset et fusiller à bout portant David, ce grand roi, ce grand prophète. Alors, à partir de cela, nous allons aller dans Jean, dans l'évangile de Jean, parce que le thème de la justice, de la sainteté, de la vérité de Dieu est majeur. Et donc, j'ai passé un peu de temps dans Jean, beaucoup, c'est comme vous voulez, Jean chapitre 2, versets 24 à 25. Jésus ne se fiait point à eux, à tous ceux qui couraient derrière lui parce qu'il faisait des miracles, hein, et qui disaient qu'ils croyaient en lui. Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait tous, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme. Car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Évidemment, avec ce que je viens de lire précédemment, dans l'Ancien Testament, vous comprenez que Dieu lui-même sait tout cela. Alors, dans chapitre 1 de Jean, verset 47. Chapitre 1, verset 47. Quand Jésus rencontre Nathanaël, Nathanaël a quitté son figuier, il est en route pour aller voir cet homme. Ben, Philippe lui a dit, hein, nous avons rencontré un homme dont Moïse et les prophètes ont parlé. C'est certainement le Messie, viens voir. Bon, il se lève, il part, et en route, il croise Jésus. Jésus va aussi vers lui. Alors, qu'est-ce qui se passe? Jean 1, 47. Jésus voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel, voilà un homme qui échappe au mensonge. Pas au péché, hein? Pas au péché. Il a d'autres péchés, évidemment. Mais il échappe au mensonge. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Et donc, Nathanaël va confesser la puissance de Dieu. Alors, si Nathanaël ne ment pas, n'est pas un homme de mensonges, et qu'il est pécheur. Ah oui, parce qu'il y a 10 commandements. Prenons Exode, au chapitre 20. Qu'est-ce qui se passe dans Exode 20? Nous avons 10 commandements. Et forcément, Nathanaël n'est pas meilleur que nous, mais sur ce point, il est sans mensonge. C'est quand même une grande vertu. Une grande vertu que Dieu lui a donnée, et qu'il met en pratique. Alors, dans Exode, chapitre 20, il est dit ceci, au verset 16, « Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. » Donc, mentir pour enfoncer quelqu'un ou pour en profiter. Et il est évident qu'il y a beaucoup d'autres paroles, d'autres enseignements dans les 10 commandements où il ne faut pas mentir avec la langue et avec les yeux. Le commandement, tu ne porteras pas de faux témoignages, donc de mensonges contre le prochain, est donc un grand commandement que Nathanaël pratiquait aisément de tout son cœur, par crainte de Dieu, par esprit de vérité. Donc maintenant nous sommes dans Jean, au chapitre 4, verset 23. Jésus parle avec la Samaritaine et lui dit ceci. L'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit en vérité. Donc, Dieu est esprit. L'Esprit Saint est Dieu et l'Esprit Saint peut nous conduire dans la vérité. L'Esprit Saint peut nous conduire dans une vie sans mensonge. Et il est clair que l'heure est venue. Les vrais adorateurs devront être mobilisé, habité du Saint-Esprit pour ne plus mentir, pour être dans la vérité, rien que la vérité. Et Jésus a donc émis ici un décret, l'heure est venue. Et donc, clairement, le temps du mensonge religieux, ou du mensonge même chez les athées, doit se terminer. Je suis venu pour une autre époque, un autre temps. Je veux préparer des hommes de demain. Des hommes de demain, pour le royaume. Pour le moment, je sème, je témoigne, je n'installe pas encore le royaume de la vérité tout de suite. Et c'est clair que quand Jean parle à Pilate, il l'affirme, mon royaume n'est pas encore de ce monde. Voici dans Jean 18, Pilate rentra, verset 33, Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus, lui dit, es-tu le roi des Juifs? Jésus répondit, est-ce de toi-même que tu dis cela, ou d'autres te l'ont-ils dit de moi? Pilate répondit, moi suis-je juif? Ta nation et les principaux prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? Jésus répond, mon royaume n'est pas de ce monde. Répondit Jésus, ben oui, c'est pas un royaume de mensonges. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Pilate lui dit, tu es donc roi? Jésus répondit, tu le dis, je suis roi, je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Donc nous avons ici l'affirmation que Jésus prépare les hommes de demain. Grâce à son témoignage, sa vie durant 3 ans, sa vie publique, même la vie secrète avant, et aussi, surtout, par son sacrifice à la croix, où le mensonge doit être crucifié, avec tous les autres péchés, et où l'Esprit Saint doit être donné pour être dans la vérité. Le vrai doit s'installer sur la terre. Le vrai doit régner. Le faux doit disparaître. Et dans Jean 6, 68, vous avez cette parole, Jean 6, 68. Simon-Pierre répondit à Jésus, « Seigneur, à qui rions-nous? Tu es les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » Pourquoi Pierre a-t-il connu que Jésus est le Christ? Parce qu'il ne ment pas. Il est la vérité incarnée. À toute la différence de tous les imposteurs religieux. Tu as les paroles de la vie éternelle. Jean 8, 31. Il dit aux Juifs, donc à ceux qui étaient là, qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, si vous êtes mes enseignés et que vous acceptez du fond du cœur mes enseignements, vous connaîtrez la vérité. C'est un décret, c'est une promesse et cela s'exécute et la vérité vous affranchira. Vous aurez une liberté à l'égard du mensonge. Une liberté pour la sainteté. C'est extrêmement important. Et donc, au verset 36, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Donc, si vous êtes mes disciples, la vérité, si vous demeurez dans ma parole, la vérité vous affranchira. Mais nous savons que Jésus est parti au ciel. Donc, mais où est la vérité dans ce cas-là? Eh bien, la vérité est ici, je vous le dis. Je prierai le Père, il vous donnera un autre protecteur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir, puisqu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous le connaissez, car il demeure avec vous, il sera en vous. C'est Jean, chapitre 14, verset 16 à 17. C'est une promesse formelle, c'est cela. ça fait l'objet de notre foi. Et ça fait partie de notre régénération, de notre renouveau, pour éviter le règne et la puissance du mensonge en nous. Et regardez bien au chapitre 16, au verset 13 et suivant, quand le Consolateur, le Protecteur sera venu, l'Esprit de vérité, donc Dieu le Saint-Esprit, qui est la vérité par essence, puisqu'il est Dieu, l'Esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, il dira tout ce qu'il aura entendu, il vous annoncera les choses à venir. Tout ce que se passe entre le Père et le Fils dans la Trinité est répercuté par le Saint-Esprit dans le cœur des vrais disciples. Il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Et qu'est-ce qu'il prendra? La vérité. C'est la vérité qu'il installe en nous. Donc, la régénération est reconnaissable à un esprit de vérité chez les vrais chrétiens. Et donc, on ne peut pas être, on ne peut pas avoir comme papa le diable. On ne peut pas avoir comme papa le diable. Alors, dans Jean chapitre 17, verset 7, Jésus dit ceci dans la prière sacerdotale, dans la prière qu'il adresse à son Père. Jean 17, 17, « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Ça résume tout. « Sanctifie-les par ta vérité », c'est le Père, hein, bien sûr, qui rend saint un enfant de Dieu, un disciple de Jésus, et par sa parole. Donc, évidemment, mes amis, il est très malaisé de croire qu'on est chrétien et qu'on puisse arriver à cet esprit et cet état de vérité sans lire régulièrement, sans méditer, sans aimer la parole. Si on ne le fait pas, c'est que quelque part, on refuse le chemin de la vérité. Et donc, on se conduit comme un menteur. Il faut faire attention à nous. Il faut faire très attention à la façon dont nous nous comportons dès le moment qu'on on confesse Jésus, qu'on se dit chrétien. Sinon, il aurait mieux valu rester athée. C'est moins dangereux. Alors, au chapitre 18 de Jean, verset 37, il l'a dit à Pilate, « Quiconque est de la vérité entend ma voix. Hein? Je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. » Il dit ça, « Quiconque est de la vérité entend ma voix. » Encore aujourd'hui, les amis, n'importe où dans le monde, dès qu'une parole de l'Évangile est entendue, à la radio, ou vue sur remarquée sur Internet, dans un livre, il y a des hommes et des femmes qui viennent à Christ, qui viennent à Dieu. La vérité est puissante pour transformer les hommes. Regardons Matthieu 22. Matthieu 22, verset 16. Matthieu 22, verset 16. Ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples avec les Hérodiens, donc les pharisiens, qui dirent, Maître, nous savons que tu es vrai, que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité, sans t'inquiéter de personne, car tu ne regardes pas l'apparence des hommes. Les ennemis jurés de Jésus reconnaissent ce qu'il est. Où que vous soyez, dans le travail, où que vous soyez, si vous êtes un chrétien authentique, même quelqu'un qui est ennemi, même quelqu'un qui est opposé, devra admettre la vérité de votre vie. Bien sûr, il va peut-être avoir des réactions agressives, c'est bon signe. Il va avoir des réactions séductrices, attention. Attention aux flatteries, etc. Le chrétien qui vit dans la vérité est perceptible pour tout quiconque est dans les ténèbres. Jean chapitre 20. Jean chapitre 20. Verset 22. « Jean chapitre 20, verset 22. Donc Jésus est ressuscité, il a montré ses mains à ses disciples, au verset 20, etc. Il donne la paix à ses disciples et il dit ceci, au verset 22. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit n'est pas donné à ce moment-là, mais il donne un ordre. Il faut se mettre dans une attitude de réception, d'accueil, avec intégrité, vis-à-vis du Saint-Esprit qui sera donné à la Pentecôte. Et il faut s'y préparer, bien sûr, 50 jours de préparation. Quand vous voulez avoir un esprit de vérité totale venu de Christ en vous, il vous faut du temps dans la méditation. Il vous faut du temps dans la solitude avec Dieu. Il faut vous préparer. Non pas besoin de 50 jours, mais 50 minutes, ce n'est pas de trop. Et parfois, quand on s'est écarté, quand on a mené une vie superficielle, on regarde trop la télévision, etc., etc., on est toujours avec les copains et les copines, on finit par vagabonder dans la Bible et on n'est plus en face de la vérité. Eh bien, s'il faut jeûner 4-5 jours pour demander pardon et revenir à une relation de vérité, il faut le faire. C'est ça, la vraie vie chrétienne. Ça peut être un jour de jeûne, mais il faut prendre une décision formelle, que ton oui soit oui, que ton non soit non. Tout le reste vient du malin. Au chapitre 21, verset 24, qu'est-ce que dit Jean, hein, à la fin de son évangile ? C'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses et qui les a écrites. Et nous savons que ce témoignage est vrai. Nous savons que son témoignage est vrai. Pourquoi ? Parce que le chapitre 21, ce sont les disciples de Jean. Probablement que l'apôtre Jean est déjà décédé. Les disciples de Jean, la communauté joannique, a sans doute écrit ce chapitre. Mais ils disent, nous savons que son témoignage est vrai. À propos de Jean, le disciple, si vous voulez voir la fin du récit écrit par Jean, vous allez au chapitre 20 et vous regardez bien au verset 31. Ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. En croyant, vous ayez la vie en son nom. C'est formidable. C'est formidable, chers amis. Prenons Jérémie, chapitre 10, verset 23. Y a-t-il parfois des ressemblances entre l'Ancien et le Nouveau Testament ? Les vérités bibliques de l'Ancien et du Nouveau Testament. Jérémie 10, verset 23. Je le sais, ô Éternel, la voie de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme quand il marche à diriger ses pas. Mais voilà. Évidemment, c'est pour ça qu'il faut le Saint-Esprit. Jérémie 10, verset 23. Ce sont des vérités bibliques très profondes. 630 avant Jésus. Alors, si de telles vérités sont proclamées, il faut se pencher sur ces vérités-là. Psaume 45, verset 5. Psaume 45, verset 5. Ce que je me plais à faire, c'est de montrer qu'il y a une unité de révélation par le même Saint-Esprit dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Même si les différences majeures sont là. À propos, bien sûr, de la désobéissance des Juifs. Ça, c'est clair. Ça nous heurte parfois, alors qu'ils ont les prophètes, ils ont reçu tellement de grâce. Mais regardons bien l'état de nos églises. Ce n'est pas différent, souvent. Psaume 45, verset 5. Oui, ta gloire. Ben, vous savez, c'est un hymne à Christ. Hein. Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Je dis, mon œuvre est pour le roi. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Tu es le plus beau des fils de l'homme, la grâce est répandue sur tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Vaillant guerrier, saint ton épée, ta parure et ta gloire. Oui, ta gloire, sois vainqueur, monte sur ton char, défends la vérité, la douceur et la justice, et que ta droite se signale par de merveilleux exploits. Ces versets-là dans le psaume 45 qui nous démontrent une attente glorieuse de Christ. C'est le Christ de la vérité, de la douceur et de la justice. Ta droite se signale par de merveilleux exploits. Je pense que l'exploit le plus formidable, évidemment, c'est le pardon à la croix pour nos péchés, c'est la résurrection, c'est le don du Saint-Esprit. Et l'œuvre du Saint-Esprit dans le monde, il y a énormément de personnes aujourd'hui qui deviennent disciples de Christ. Alors, vous pouvez méditer tout le psaume 45, il parle de Christ. Le psaume 51, verset 8. Tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Sagesse, équivalence à vérité. C'est-à-dire que la sagesse, dans l'Ancien Testament, dans le plus beau sens du terme, c'est l'obéissance à la volonté de Dieu. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. L'hysope, c'est un tout petit buisson dans lequel on trempait dans le sang de la vache rousse pour asperger le peuple. Ce que les prêtres dans l'Église catholique ont copié avec du bouillon, avec du goupillon et de l'eau bénite pour asperger les gens. Ben, ça se fait de moins en moins, évidemment. En tout cas en Europe. Le psaume 32, verset 2. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Donc, heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité, c'est-à-dire qu'il lui pardonne ses péchés, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Il ne s'agit pas seulement d'être pardonné, il s'agit d'être dans un état d'esprit profond, véritable, où il n'y a plus de mensonge. On ne prend plus le chemin du mensonge. C'est cela. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Chers amis, c'est extrêmement profond des versets pareils. Le psaume 119, le plus long psaume, hein, qui équivaut à 16 psaumes, psaume 119, parce que chaque partie de ce psaume correspond à une lettre de l'alphabet hébreu. Psaume 119, verset 140. Ton serviteur est entièrement éprouvé, ta parole est entièrement éprouvée, et ton serviteur l'aime. Ta parole est entièrement éprouvée. Ce mot-là, dans l'Ancien Testament, ta parole est entièrement éprouvée, c'est-à-dire, elle est pure intégralement. Il n'y a pas de mensonge dans la parole divine. Et ton serviteur l'aime. Vous voyez, l'adhésion à la parole juste et vraie de Dieu. Et au verset 160, toujours dans le psaume 119, le fondement de ta parole est la vérité et toutes les lois de ta justice sont éternelles. Rappelez-vous Jean chapitre 17, verset 17, ta parole est la vérité. Et bien ici, le fondement de ta parole est la vérité et toutes les lois de ta justice sont éternelles. Nous sommes devant un cadeau formidable. Un nouveau chemin sans mensonge. Un nouveau chemin sans imposture. Regardons le psaume 10. Vous savez, je dois continuer ce thème vendredi. Dans tous les épîtres du Nouveau Testament, je dois bien sûr aller vous servir les belles fleurs, les belles paroles de Dieu à propos de la vérité contre le mensonge. Alors, psaume 10, versets 2 à 11. Le méchant dans son orgueil poursuit les malheureux. Ils sont victimes des trames qu'il a conçues. Qu'est-ce que ça veut dire? Et je vais continuer. Le méchant se glorifie de sa convoitise, le ravisseur outrage méprise l'Éternel, Le méchant dit avec arrogance, il ne punit pas, il n'y a point de Dieu, voilà toutes ses pensées. Ses voies réussissent en tout temps, tes jugements sont trop élevés pour l'atteindre, il souffle contre tous ses adversaires. Il dit en son cœur, je ne chancelle pas, je suis pour toujours à l'abri du malheur. Sa bouche est pleine de malédictions, de tromperies et de fraudes. Alors là, nous retrouvons le mensonge. Sa bouche est pleine de malédictions, donc il vomit sur les autres, il utilise même le nom de Dieu pour les maudire, alors qu'il est lui-même ennemi de Dieu, et il use de tromperies et de fraudes. Il y a sous sa langue de la malice et de l'iniquité. Il se tient en embuscade près des villages, il assassine l'innocent dans des lieux écartés, ses yeux épient le malheureux, il est aux aguets dans sa retraite, comme le lion dans sa tanière, il est aux aguets pour surprendre le malheureux, il le surprend et l'attire dans son filet. Voilà le méchant. Il dit en son cœur, regardez bien, Dieu oublie, il cache sa face, il ne regarde jamais. Ça, c'est l'art du méchant. Dieu ne me voit pas, il m'a laissé faire, c'est bon. Hein. C'est bon. Il ne regarde pas, il cache sa face, il s'en fout, je peux le faire. Il se cautionne lui-même pour continuer dans son iniquité et son vice. Et donc il met le sceau à son iniquité. Ça c'est clair. Avez-vous déjà rencontré des personnes pareilles? Oui, ça existe. Évidemment ça existe. Sinon la parole de Dieu aurait tort. Le psaume 9. Verset 20, et j'en termine. C'est un verset que j'aime. Psaume 9, verset 20. Lève-toi, ô Éternel, que l'homme ne triomphe pas, que les nations soient jugées devant ta face. Que l'homme ne triomphe pas, que les nations soient jugées devant ta face. Eh bien, c'est ce que Jésus a promis. Il viendra pour juger les vivants et les morts. C'est finalement ce qui s'accomplira. Dans ce psaume 9, il y a quelque chose de formidable. L'humain est tellement méchant et mauvais. Et je me rappelle, un jour, dans un cours de théologie au séminaire à l'Institut Algrange, un jeune étudiant, moi j'avais déjà 41 ans, un jeune étudiant demande, mais pourquoi, puisque Jésus est ressuscité, que Dieu a ressuscité Jésus, pourquoi est-ce qu'il n'a pas supprimé la mort tout de suite? Le pasteur le regarde et lui dit, mais écoute, en attendant que le royaume soit installé, imaginons que tous les hommes ne meurent pas, eh bien, tu vois le nombre de monstres qu'il y a sur la terre qui font du mal aux autres, ils ne meurent pas. Y a-t-il une chance d'avoir 5 minutes de bonheur pour tous les autres? Il faut bien que la mort subsiste jusqu'au retour de Jésus. Même si la résurrection de Jésus anéantira la mort et l'a anéantie, il est clair qu'actuellement, la mort des humains est le moindre mal. Parce que le pire des maux serait que les humains, en attendant le royaume de Christ, ne meurent point. Les monstres, les hommes et les femmes iniques auraient toffé d'écraser, de faire souffrir à l'extrême tout le reste des humains. Ce pasteur avait bien réfléchi à la question et je vais vous dire, la mort est un moindre mal en attendant la gloire de Christ sur la terre et l'établissement de son royaume. Donc Dieu n'a pas menti en ressuscitant Jésus et en disant que la mort est engloutie dans la victoire de Christ, Dieu n'a pas menti. Le fait qu'il y ait des morts aujourd'hui n'est pas un déni de la vérité de Christ. C'est un déni de notre péché féroce et méchant pour notre prochain. Voilà comment il faut le voir. Que Dieu vous bénisse, à vendredi, et là nous allons aller dans les Épîtres, l'Apocalypse, et nous avons beaucoup de passages à lire.